8h, 9h, format A3.
Et nous sommes de retour avec notre invité Jean-Daniel Tissot, hématologiste et directeur du service régional vaudois de transfusion sanguine.
Alors demain, il va donner une conférence à la Neuville intitulée « L'immortalité, un sujet d'avenir ». Clin d'œil au livre du même nom, du même titre, auquel ont contribué aussi bien des artistes que des scientifiques, des ethnologues ou encore des prêtres.
Alors dans cette conférence, vous allez nous proposer d'aborder l'immortalité dans une autre perspective qu'une simple prolongation de la vie. Quelle autre perspective, Jean-Daniel Tissot ?
Je pense que la perspective qui me touche le plus, c'est la relation que chacun d'entre nous a avec l'autre. Somme toute, je pense que nous sommes des petits porteurs d'immortalité au service de l'espèce. Chacun d'entre nous a pour objectif, conscient ou non, de transmettre une partie de son patrimoine génétique à sa descendance. Alors on pourrait se dire que c'est un petit peu de l'égoïsme, puisque finalement on veut que quelqu'un d'autre nous survive. Mais je crois qu'au fil du temps, on nous démontre que c'est l'inverse. Typiquement, on a au sein de nos cellules des petits machins qu'on appelle des mitochondries. C'est ce qui nous permet de respirer. Ces mitochondries sont des restes de bactéries que l'on a au sein de nos cellules. Et pourquoi je trouve que c'est fascinant? C'est parce que les mitochondries que nous possédons dans toutes nos cellules viennent exclusivement de nos mamans. Donc nous respirons à travers les mitochondries de nos mères. Une autre chose que les garçons ont, c'est un chromosome Y qui est exclusivement transmis de mâle en mâle, de toutes sortes de générations. Donc il y a des constantes qui sont transmises, qui sont quasiment immortelles, alors que nous sommes mortels. Je crois que c'est cette générosité qui est importante pour nous. Il faut que l'on puisse se sacrifier en atteignant un grand âge pour que les jeunes puissent vivre, développer, construire, changer, évoluer. Cette évolution-là, pour l'espèce, est une relation d'immortalité. Mais finalement, ce qui est le plus important, c'est que c'est la relation à l'autre. La relation à l'autre en tant qu'être humain, mais aussi les relations qu'on peut avoir avec les bactéries de tube digestif, avec les fleurs, avec la montagne, avec tout notre environnement. Et je crois qu'il faut être extrêmement modeste quand on aborde l'immortalité. C'est simplement la continuité de la vie. Et c'est ça qui est important. À mes yeux, c'est la vie et les liens concrets.
Donc la vie, les liens concrets, la vie de société, le patrimoine génétique. Donc finalement, l'immortalité, ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose qu'on réalise en transmettant son patrimoine génétique, en œuvrant pour que le modèle de notre société perdure.
C'est un petit peu l'impression que j'ai. Et somme toute, ce qui me choque, c'est les publicités que l'on entend à tire-larigot parce que je le vaux bien. Le « vaut » et « je » sont incorrects. Je pense que c'est parce que nous le valons bien qui est important. Et c'est à travers le « nous » que nous sommes immortels, à travers le « je crois qu'on doit revendiquer cette possibilité de partir et de laisser la place.
Et d'un point de vue biologique, on en parlait hors antenne, il y a déjà peut-être un petit morceau d'immortalité dans l'homme, outre que ses mitochondries. Une enzyme qu'on surnomme l'enzyme de l'immortalité, c'est quoi ?
C'est une enzyme qui a été découverte par la préfacière de ce bouquin, Elizabeth Blackburn. C'est une enzyme qui maintient la longueur des chromosomes lors de chaque division cellulaire et qui empêche que l'horloge temporelle liée à la division cellulaire soit active. C'est comme si chaque fois qu'une cellule se divise, on a une trace de cette division. Donc, aucune des cellules filles ressemble à la cellule mère. Si on maintient les télomères, ça veut dire qu'on est capable de laisser les cellules à l'état maternel, donc de toute puissance de création. On est capable de jouer avec ces enzymes, de les maintenir. Mais ce n'est pas les seuls éléments de l'immortalité cellulaire, c'est plus la trace du temps et de la division.
Et puis, dans ce livre, on le disait, des spécialistes de plein de matières différentes se sont réunis. Réussir à faire travailler sur le même sujet des prêtres et puis des scientifiques, des biologistes par exemple, c'était un peu un défi pour vous ?
C'était un défi étrange parce que, effectivement, c'était aborder différents thèmes et chacun s'est senti acculé à devoir réfléchir à des thèmes qu'il n'avait pas nécessairement envie immédiatement d'aborder et de l'aborder sous le format d'un collectif qui est un petit peu limitatif et qui peut paraître comme hétéroclite. Je crois qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant en voyant quelques facettes, mais il en manque encore tellement que l'on est peut-être contraint à penser à un volume 2.
D'accord. Donc, les immortels, c'est pas du tout comme dans les films avec Christophe Lambert. Voilà, Highlander, c'était à ça que je pensais, où seule une épée pouvait couper la tête des immortels. Puis on peut se dire que finalement, être immortel, ça doit être quand même un peu ennuyeux, non ?
Surtout vers la fin, comme disait Coluche. Il y a un très joli chapitre tout petit chapitre qui a été fait par un immortel, René de Obaldia, qui est le plus vieux membre actif de l'Académie française et qui nous a fait un petit texte en disant « Les immortels meurent aussi », qui est un petit texte magnifique. Et vraisemblablement, c'est le dernier qu'il ait écrit depuis le décès de sa femme. Il nous a fait un magnifique cadeau.
Alors, on parle d'immortalité, on parle du rêve hein, de l'homme. On a commencé par ça, évidemment. Ce rêve a complètement évolué aussi, le rêve lui-même, en fonction des découvertes.
Ça, c'est clair, parce que l'homme est capable d'imaginer ce qui était impossible il y a quelques siècles ou quelques dizaines d'années. Coloniser Mars est un rêve absolument qui n'est plus totalement de l'utopie. Donc, l'homme est capable d'aller dans les ailleurs, dans les impossibles. Il est capable de s'imaginer vivant 150 ans, mais vivant en bonne santé. Et c'est peut-être ça l'enjeu du vieillissement de la population. C'est pas tellement cette immortalité, mais c'est d'être capable de rester fidèle à soi-même en ayant une forme physique qui nous permette d'être heureux chaque jour quand on se lève, de contempler ce qui nous entoure. Le problème, c'est que si tous les êtres humains devaient vivre 500 ans, quelle place pour les jeunes? Quelle est la place pour le renouvellement? Et finalement, quelle est la place pour la diversité et l'évolution?
Alors Jean-Daniel Tissot, vous serez à la Neuville mercredi, ce mercredi à 20h30 à la maison de la paroisse réformée pour continuer cette discussion sur l'immortalité. On va rappeler le titre de votre livre, enfin le livre que vous avez édité avec tous ses autres confrères, L'immortalité, un sujet d'avenir. On mettra tous les détails sur le blog de Format A3. Puis on vous remercie beaucoup d'avoir participé à la mission ce matin.
C'est moi qui vous remercie. Belle journée.
Oui, une belle journée.
Vous rêvez, vous, d'immortalité, franchement?
Non.
Ouais, mais le plus tard possible, hein, c'est ça?
Le plus tard possible. Et puis, moi, ce que je rêve, c'est de tâcher de me lever chaque jour en étant dans un nouveau jour. Et chaque jour me suffit.
Ben voilà, on va faire nôtre cette devise. Pour aujourd'hui,
ça commence bien le printemps.
Oui, hein, pour aujourd'hui, ah oui. On a fait notre chemin. On le reprend demain sur le coup de 8h10. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. À bientôt.
À demain.
A3, c'est plus sympa. Format A3.